À tourner dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 27. Actes, chapitre 27. Nous allons lire ensemble les versets 13 à 29. Actes 27, les versets 13 à 29. Alors, j'espère que c'est un message qui va vous encourager. Moi, ça m'a encouragé à le préparer. Donc, ça concerne une tempête dans laquelle l'apôtre Paul est pris. Et ça nous arrive régulièrement d'être pris dans des tempêtes plus ou moins violentes, plus ou moins fortes. Ça peut être un ouragan, ça peut être une tornade, ça peut être une averse. Mais on va voir ce matin que peu importe la tempête dans laquelle on se trouve, Dieu est toujours présent dans la tempête. Amen. C'est important de se rappeler que les tempêtes ne font pas peur à Dieu, puisque souvent, il permet aussi de provoquer, il permet que des tempêtes soient provoquées dans nos vies pour nous ramener vers lui, si c'est le cas, mais aussi pour nous faire grandir et pour le faire grandir à travers nos yeux, pour éviter de le faire un petit Dieu, mais de nous rappeler qu'il est toujours un grand Dieu. Versets 13 à 29. « Un léger vent du sud vint à souffler. » Et, se croyant maître de leur dessein, eh bien, les marins levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent appelé nord-est se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent. Et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Nous avons passé au sud d'une petite île nommée Tloda. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maître de la chaloupe. Les marins l'ont monté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du navire. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de la Libye, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment secoués par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer et le jour suivant ils jetèrent de leurs propres mains l'équipement du navire par-dessus bord. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous avions finalement perdu toute espérance d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant debout au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. Nous aurions évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Et le navire seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu dans sa bonté pour toi t'a accordé la vie, ou Dieu dans sa grâce t'a accordé la vie et la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, prenez courage, car j'ai confiance en Dieu, il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. C'était la 14e nuit. Nous étions toujours ballottés par la tempête sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une ligne à laquelle était attaché un poids. Et ils trouvèrent que la profondeur de l'eau était de 37 mètres. Un peu plus loin, ils la lancèrent de nouveau et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Craignant que notre navire ne heurte des rochers, ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Ces braves marins étaient pris dans une violente tempête qui menaçait de faire sombrer le navire. Dans un effort pour sauver le navire et leur vie, ils jetèrent 4 ancres. Ah, je l'ai dit ça, malheureusement, excusez-moi. Malheureusement, ces ancres ne pourront rien faire pour empêcher le navire d'être ballotté au gré des vents, et le navire finira par s'échouer. Toutefois, il y avait un homme à bord de ce navire, un homme qui s'appelait Paul. C'était un homme spécial pour plusieurs raisons. C'était un enfant de Dieu. C'était un homme investi d'une mission. C'était un homme de foi. C'était un homme qui vivait en communion intense avec Dieu. Et à cause de cela, Paul se sentait en sécurité au milieu de cette tempête, même si tout autour de lui menaçait de s'écrouler. Et ça peut être notre cas aussi ce matin. Et on peut vivre des situations difficiles où on a l'impression que tout va s'écrouler autour de nous. Et j'espère ce matin que vous allez trouver votre réponse à travers ce message, parce que c'est un message qui nous vient de la parole de Dieu, un message qui est inspiré. Et Dieu veut nous faire du bien ce matin. Dieu veut vous faire du bien. Et Dieu veut surtout vous encourager à persévérer dans votre foi. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons... L'apôtre Paul nous dit de te remercier en toutes choses et nous voulons te remercier ce matin, non seulement pour le soleil que tu fais apparaître dans nos vies, mais aussi pour les nuages et pour les tempêtes, Seigneur, parce que nous voulons nous rappeler que derrière chaque nuage, derrière chaque tempête, et même quand le soleil brille, Seigneur, tu es toujours là, tu es toujours présent dans nos vies. Tu es toujours là, Seigneur, pour nous former, pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et pour nous former, des fois, tu as besoin de nous déformer pour faire en sorte, Seigneur, de chasser ce que nous avons hérité de notre premier Adam. Les choses qui sont contraires, Seigneur, à ta volonté. Les choses qui sont contraires, Seigneur, à la manière de vivre que tu nous demandes de vivre. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Que nos cœurs puissent être ouverts à recevoir la portion que tu en réserves pour chacun de nous. Et que tous, sans exception, Seigneur, nous puissions quitter ce lieu avec la certitude non seulement de t'avoir rencontré, mais aussi que tu auras parlé à nos cœurs et que ce que nous aurons reçu dans notre cœur, nous acceptions et nous promettions de la mettre en pratique. Et c'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. À cause de ce qu'il était, Paul se sentait en sécurité au milieu de cette tempête, même si tout menaçait de s'écrouler autour de lui. Et les marins jetèrent, on a lu dans le texte que les marins ont jeté 4 ancres. Dans la mer pour tenter d'immobiliser et de stabiliser le navire. Mais leur tentative a échoué. Et lorsque je lis le texte, je réalise que l'apôtre Paul avait lui aussi 4 ancres. 4 ancres, pardon, qui le stabilisèrent pendant la tempête. C'est des ancres spirituelles. Et je pense que c'est important pour nous qu'on s'approprie ces 4 ancres-là, où on les a peut-être lus, mais on n'a pas pu les discerner en lisant la parole de Dieu. Mais je pense que c'est 4 ancres qui nous permettent d'affronter finalement tout ce qui nous attend à l'extérieur et même à l'intérieur de l'Église. Alors, malgré le fait que ce navire était secoué et ballotté, Paul était capable de garder son calme et de garder le contrôle de la situation. C'est extraordinaire, Paul qui n'était même pas un marin, Paul qui avait vraiment des connaissances très, très mitigées des bateaux et de la façon de naviguer, celui qui était le plus calme parmi tout l'équipage, parmi tous ces hommes d'expérience, eh bien, c'était l'apôtre Paul. Je voudrais prendre quelques instants avec vous ce matin pour examiner ces ancres qui permirent à l'apôtre Paul de rester calme pendant la tempête. Car voyez-vous, même si ces ancres sont disponibles pour vous et moi ce matin, lorsque nous devons affronter les terribles tempêtes qui surviennent sur les mers déchaînées de nos vies, nous avons besoin de nous accrocher à ces ancres que Dieu nous donne, ces ancres spirituelles que Dieu nous donne. La première ancre solide de Paul ici, c'est au verset 23. Et c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Avez-vous la certitude, frères et sœurs, ce matin, que peu importe ce que vous vivez, peu importe où vous vous trouvez, Dieu est présent? Et ça, c'est décourageant, c'est un amen décourageant. Êtes-vous convaincu que Dieu est présent dans vos vies, peu importe ce que vous vivez, peu importe où ce que vous êtes? Ah, là, on va continuer. Verset 23. Bon, je vais déplacer mes feuilles, là. 23. Verset 23, voilà. Dieu a envoyé un ange. C'est ce que le verset 23 nous dit. Dieu a envoyé un ange à Paul pour l'encourager. Même au milieu de cette terrible tempête, Paul savait qu'il n'était pas seul parce que le Seigneur est venu le visiter durant la nuit pour le fortifier. Peu importe la tempête que nous traversons, frères et sœurs, si nous avons la même confiance que Paul avait dans sa relation avec le Seigneur, nous pouvons avoir la certitude qu'il tiendra sa promesse d'être toujours avec nous. Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, sachez-le, je veux que vous le sachiez, je serai tous les jours avec vous et ce jusqu'à la fin du monde. Sachez-le, je suis présent dans les bons comme dans les mauvais moments et dans certains moments, mauvais moments que vous vivez, c'est moi qui les ai provoqués. Mais je garde le contrôle de la situation. Saisissez cette ancre, la première. Dieu est présent dans toutes les situations que vous vivez. Amen. 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 Ah! Comme David, nous pouvons dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Si David avait eu la certitude que Dieu n'était pas présent avec lui dans la vallée, il aurait dit, il faut que je le relise par exemple, hein, quand je marche dans la vallée de la mort, il n'aurait pas dit de l'ombre de la mort, il aurait dit dans la vallée de la mort, la différence, elle est énorme. Pour qu'il puisse avoir de l'ombrage, il faut qu'il y ait une lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus est présent dans ma vie. Peu importe ce que vous vivez, frères et sœurs, Jésus est présent dans votre vie. L'ombre, pour qu'il y ait de l'ombrage, vous êtes d'accord avec moi, pour qu'il y ait le minimum d'ombrage, il faut qu'il y ait un peu de lumière qui pénètre. C'est une règle, je suis pas physicien, mais c'est une règle de physique, hein. C'est une loi de la physique. Et David pouvait dire, quand je marche, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je sais que Dieu est toujours avec moi. Il m'accompagne. Il est présent. Il est présent. On a un ennemi qui est très, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable, hein. Faut pas avoir peur de le nommer, hein. Le diable. Qui, dans les moments où nous sommes dans cette vallée, essaye de nous faire croire que Dieu nous a abandonnés, que nous sommes seuls. Mais ça, c'est un mensonge. Il est le père du mensonge. C'est encore un mensonge qu'il nous donne. Dieu est toujours présent, peu importe la situation dans laquelle on vit. Quel encouragement de savoir que peu importe la vallée dans laquelle nous nous retrouvons, le Seigneur nous honorera de sa présence. Nous avons l'assurance que tous les jours de notre vie, psaume 23:6, dans le même psaume, nous avons l'assurance que tous les jours de notre vie, sa bonté et sa générosité nous suivront pas à pas. Hey, extraordinaire! Frères et sœurs, c'est une promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu. On va parler des promesses de Dieu ce matin. Et on va rechanter le cantique 56, tantôt, parce que on parle d'une promesse de Dieu dans ce cantique. Ce serait une bénédiction si nous ressentions la présence du Seigneur, comme ce fut le cas pour Paul. Mais même quand vous ne pouvez pas le voir, il est toujours là, veillant sur vous et vous protégeant, frères et sœurs. Il est toujours là. Le problème, souvent, on ne le ressent pas parce qu'on ne le sait pas. Ça dépend de la qualité de la relation qu'on vit avec le Seigneur. Ça dépend aussi de la place qu'il occupe dans notre vie. S'il n'occupe aucune place, ben c'est évident que finalement, s'il n'occupe aucune place dans notre vie, on ne ressentira pas sa présence. Mais si Dieu occupe la place qu'il doit occuper, on va ressentir qu'il est présent dans notre vie, peu importe les situations, peu importe les situations que nous vivons. Et comme Paul, nous serons capables de dire, je peux remercier le Seigneur, peu importe la situation que je vis, parce que ça sert à ma formation spirituelle. Romains chapitre 8, verset 28-29, je le répète, le but ultime de Dieu quand on est sauvé, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et ça passe par les tribulations, ça passe par la maladie, ça passe par les épreuves. Ce que Dieu veut, c'est se glorifier à travers vous, à travers moi. Amen. Dieu, s'il ne veut pas savoir si on a raison ou on n'a pas raison, ce que Dieu veut, c'est de faire en sorte de se glorifier. C'est le but ultime de Dieu. Pour que nos prières, nous ayons la certitude que nos prières puissent être répondues, il faut que le but premier de la prière, ce soit de glorifier Dieu. Souvent, nos prières, et il y a plusieurs raisons, la Bible nous dit pourquoi nos prières ne sont pas répondues. Plusieurs raisons. Souvent parce qu'on demande mal, et la deuxième parce qu'on demande dans un but égoïste. Et quand on demande dans un but égoïste, c'est que la gloire de Dieu, ça, on n'en a rien à cirer. Et Dieu dit, écoute, tu veux que je réponde à tes prières? Le but premier, c'est que je dois être glorifié dans ta demande. Amen. On demande pour la guérison, mais quand on est guéri, le Seigneur, il lit dans nos cœurs. Et s'il voit que dans notre cœur, notre but de la guérison, c'est de le glorifier, eh bien, il risque de répondre à cette prière. Maintenant, si Dieu pense qu'il peut continuer à se glorifier à travers vous et davantage en permettant que vous restiez malade, il va le faire aussi. Hein? Dieu dit dans Deutéronome, je suis le Dieu qui guérit. Dieu peut guérir toutes les maladies, mais il n'a jamais promis dans la parole, trouvez-moi le verset, qui guérit toutes les maladies, qui va les guérir toutes. Hein. Alors Dieu peut se glorifier en permettant qu'un de ses enfants demeure malade, et cette personne-là, bien, elle peut avoir une relation encore plus forte avec le Seigneur que s'il était en santé. Et Dieu la connaît très bien, lui, il se dit, écoute, si je la garde, si je la guéris, elle va encore m'abandonner, elle va encore me mettre de côté. Et à chaque fois que ça ne va pas dans sa vie, elle vient me voir. Mais je vais la laisser un petit peu, je vais y répondre, je vais prendre du temps pour y répondre. Pour qu'elle réfléchisse. Parce que mon but premier, c'est de me glorifier dans cette personne. Amen. Ouais. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, quand il a demandé au Seigneur de la guérir, trois fois, il a demandé pour la guérir, et le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et quand vous lisez le reste du texte, pour ne pas que Paul puisse se vanter. Pour ne pas que Paul puisse se vanter. C'est extraordinaire, hein? Dieu savait que s'il guérissait Paul, tu vas te vanter, Paul. Tu vas te vanter. Tu vas devenir trop grand, Paul. Et moi, je vais devenir trop petit, Paul. Je dois toujours demeurer le plus grand et toi, demeurer toujours le plus petit, Paul. Parce que quand je suis grand et que toi, tu es petit, je fais de grandes choses dans ta vie. Mais quand tu es grand et moi, je suis petit, ben, c'est toi, les réflecteurs sont sur toi, les spots sont sur toi. Et malheureusement, je suis un petit Dieu. Et je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec personne. Amen. Amen. Ouais. Le théologien Tony Campolo raconte que lors de sa première année scolaire, sa mère, pour le protéger, avait demandé à une adolescente qui habitait, en fait, qui était voisine, de faire à chaque jour le trajet aller-retour. Pour ce service, elle recevait une pièce de 20 centimes par jour. Mais lors de sa deuxième année scolaire, Tony se rebella et il dit ceci à sa mère. « Maman, dorénavant, je marcherai seul jusqu'à l'école, et si tu me donnes 10 centimes par jour, je vais redoubler de prudence. Tu vas économiser quand même la moitié de la somme puisque tu donnes 20 centimes à l'adolescente pour me conduire. » Après avoir longuement supplié sa mère, le petit Tony finit par la convaincre. Il put faire le trajet aller-retour de la maison à l'école et de l'école à la maison tout seul comme un grand garçon. Il avait 8 rues à traverser pour se rendre à l'école, mais il était prudent. Il ne parlait pas aux étrangers, il ne se laissait pas distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit pendant ses allers-retours de l'école à la maison et de la maison à l'école. Quelques années plus tard, lors d'une fête de famille, alors qu'il se vantait d'avoir obtenu son indépendance très jeune et qu'il rappelait à sa famille comment il avait pris soin de lui-même lorsqu'il était un tout jeune garçon, sa mère qui écoutait ça, elle riait. Elle s'est mise à rire. Elle dit, « Tony, si tu permets, laisse-moi raconter la suite de l'histoire. » Crois-tu vraiment que tu étais seul? Chaque matin, lorsque tu quittais la maison, je marchais derrière toi et je te suivais jusqu'à l'école. Et lorsque tu quittais l'école le soir vers 15h30, j'étais là. Je me cachais et j'attendais que tu sortes et je te suivais jusqu'à la maison. Je voulais juste être là au cas où tu aurais besoin de moi. Chers amis, il en est de même avec Dieu. Il marche avec vous jour après jour, afin d'être là juste au cas où vous auriez besoin de lui. Amen, c'est extraordinaire. Et on ne le voit pas. La seule fois que mon père m'a suivi dans ma vie, ça m'a permis une grosse ratelée parce que j'avais fait quelque chose de mal. Mais mon père, il veillait sur moi et je me suis aperçu à 20 ans, quand j'ai été refusé la première fois dans la police, mon père, il a pleuré à chaudes larmes. Je me suis... C'est à 20 ans que j'ai réalisé que mon père m'aimait. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Il trouvait ça injuste qu'on m'ait refusé, ainsi de suite, quoi. Mais il pleurait. Alors que c'était un dur. Il m'a toujours paru dur. Bien, écoutez, si nos pères terrestres peuvent manifester de temps à autre qu'ils nous aiment, qu'ils peuvent nous suivre à distance pour éviter qu'on fasse des mauvais coups. Et c'était ça que je fais ce soir-là. J'avais fait un mauvais coup, mais mon père qui était caché derrière un arbre, il m'a vu, quoi. Et il est venu me chercher, m'a amené à la maison, il m'a corrigé comme je le méritais. Alors, si nos pères terrestres nous punissent comme nous le souhaitions, pas comme nous le souhaitions, mais comme nous le méritons, à combien plus forte raison notre Père céleste, frères et sœurs, on doit se rappeler qu'il est là partout où on va. Et quand on a besoin de lui, on n'a qu'à tendre la main. On n'a pas besoin d'attendre que lui tende la sienne, elle est toujours tendue, sa main. Il attend qu'on la saisisse, sa main, pour nous sortir de la boue dans laquelle on se trouve trop souvent. Deuxième ancre, c'est la solide ancre des promesses de Dieu, versets 24-25. Imaginez jusqu'à quel point, regardez versets 24-25. L'ange lui a dit, « N'aie pas peur, Paul, n'aie pas peur, parce que j'ai un plan pour toi, Paul. » Et c'est quand même pas une tempête, c'est quand même pas un naufrage qui va t'empêcher de comparaître devant César parce que c'est ce que j'ai prévu pour toi, Paul. Mais la tempête, il y a une raison pourquoi je permets à cette tempête de survenir. Extraordinaire. Imaginez jusqu'à quel point l'apôtre Paul a mûri lors de cette terrible tempête. Le Seigneur est venu avec lui avec une précieuse promesse. Il a rappelé à Paul qu'il se tiendrait devant César et que tous ceux qui se trouvaient sur le navire avec lui seraient épargnés. Pour Paul, recevoir simplement une parole, une simple parole de Dieu, suffisait à le rassurer, à lui permettre de tenir bon dans les épreuves. Il était absolument certain que Dieu avait le pouvoir d'accomplir ce qu'il avait promis. Romains chapitre 5, verset 21. Et il avait la certitude que Dieu avait la capacité, le pouvoir, la toute-puissance de réaliser ce qu'il avait promis. Voilà pourquoi Paul était le seul sur le navire qui tenait ferme et qui, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés. Hébreux chapitre 6, verset 18. Nous qui avons trouvé un refuge en lui, en Dieu, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la résurrection des morts. Cette espérance est pour nous, regardez ce qu'il dit, comme l'ancre de notre âme. Il y a des gens qui décrochent de la vie chrétienne, pourquoi? Ils ont perdu de vue la résurrection des morts. Je le répète, je l'ai dit à plusieurs reprises, les chrétiens de l'Église primitive ne disaient pas « je crois en Jésus-Christ ressuscité », ils disaient « je crois en Jésus-Christ ressuscité ». De dire que je crois en Jésus-Christ crucifié si je ne crois pas qu'il est ressuscité, ça ne me sert absolument à rien. Il est le seul, le premier et le seul qui a vaincu la mort. Il est allé de l'autre côté, il est revenu. C'est merveilleux ça. Des témoins l'ont vu. Dans 1 Corinthiens, plus de 500 témoins, nous dit l'apôtre Paul, l'ont vu. Et parmi les 500 témoins, il nous dit qu'il y en avait qui étaient encore là, qui étaient vivants. Ils l'ont vu de leurs yeux. Et frères et sœurs, par la foi, on croit que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Ses promesses, frères et sœurs, nous assurent une totale sécurité. Il nous promet, malgré les jours nuageux, des périodes ensoleillées. Psaume 30, verset 5. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Il promet de nous délivrer, psaume 34, 20. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur les délivre de quelques-uns? Non, c'est une promesse. Le Seigneur les délivre de tous. Pas en mon temps, pas en votre temps, en son temps. Il nous promet que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Et de ceux qui l'aiment, eh bien, Jésus l'a dit, hein, ceux qui m'aiment, c'est ceux qui obéissent à ma parole. Donc ici, le mot aimer, c'est pas dire j'aime moi, j'aime Jésus. C'est ceux, ils démontrent qu'ils l'aiment en mettant en pratique sa parole. La souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous prépare une gloire abondante et éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Il nous promet que sa grâce ne nous fera jamais défaut. Trois fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, il m'a répondu, ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse de 2 minutes maximum pour laisser tomber une doctrine qui traîne dans l'Église depuis des années. C'est qu'il y a des gens, il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent des excuses à pécher, et quand ils commettent le péché, ils disent, « Bien, c'est parce que je suis faible. Hein? C'est je suis faible. » Eh bien, c'est bizarre, hein? Mais quand l'apôtre Paul parle de faiblesse, lui, c'est qu'il trouve sa force. Regardez ce qu'il dit. « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis faible. C'est alors que je suis fort. » Et pourquoi il est capable de prendre le mot « faible »? Parce que quand je suis petit, quand je suis soumis à Dieu, quand Dieu occupe toute la place dans ma vie, il n'y a rien, je peux résister à tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est capable de le dire. Je puis tout. Pas presque tout, tout. Comment Paul pouvait-il dire cela? Parce que sa relation, elle était comme ça avec le Seigneur. Et Paul, il n'a pas été épargné par les épreuves. Il a été lapidé à quelques reprises. Quand il dresse le bilan de sa vie, je suis content que ce soit lui qui soit passé par là, pas moi, quoi. Il a vécu des choses épouvantables. À l'étude biblique, on essayait d'entrer dans le contexte. Vous savez, les Hébreux, c'est un peu comme les Arabes. Je ne suis pas raciste, hein. Je vous donne simplement un petit peu le contexte. Hein. Vous imaginez Paul qui commence à prêcher l'Évangile. Vous savez, les Arabes, les Hébreux, ils ont le sang très chaud. Hein. Ça tourne au quart de tour. Hein. Si tu dis quelque chose qu'ils ne font pas leur affaire, ils sont prêts à te prendre des poches, à te lancer. Hein. Vous imaginez comment Paul, comment Jésus, comment ceux qui nous ont précédés là, dans les livres des Actes, vous imaginez les tempêtes, les crachats, les insultes, les bâtons, les roches, pas des roches, si vous appelez ça des pierres, les pierres qui ont volé vers eux. C'était pas l'indifférence, les gens n'écoutaient pas avec indifférence. On allait à l'encontre de la loi juive, on allait à l'encontre de certaines religions, mais ils ont été agressés, ils ont été attaqués. Paul était mis en prison pour avoir prêché l'Évangile. Les 12 apôtres, il y en a 11 qui sont morts en martyr. Il y a juste Jean qui est mort sur l'île de Patmos, en exil, tout seul. Frères et sœurs, et Paul, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ouais. Ben, c'est quand je suis petit que Dieu manifeste sa gloire à travers moi. Et moi, ça me réjouit. Ce sont les paroles de Paul, frères et sœurs. Est-ce qu'on est capable de prononcer ça, nous, ce matin? Est-ce qu'on traîne encore notre vieille carcasse du premier Adam qui empêche justement Dieu de manifester sa gloire à travers chacun de nous? Est-ce qu'on a des priorités dans nos vies ce matin qui sont autres que celles que Dieu nous demande d'avoir? Est-ce qu'on essaye encore de s'amasser des trésors sur la terre alors que Jésus nous a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel » Parce que les trésors que vous ramassez sur la terre, vous allez les laisser là, puis vous ne savez pas ce que vos enfants vont faire avec vos trésors. Ils risquent de les dilapider. Ramassez-vous des trésors qui ne rouillent pas. Et les trésors qui ne rouillent pas, c'est quand vous prêchez, vous annoncez l'Évangile. Et quand des gens passent par la nouvelle naissance, ce sont des gens, ça transcende le ciel, ce sont des gens qui viennent atterrir dans le paradis, dans le royaume de Dieu. Ça, c'est des trésors qui ne perdent pas de valeur et qui vont durer pour l'éternité. Amassez-vous des trésors qui vont durer pour l'éternité, dit Jésus. Frères et sœurs, où sont nos priorités ce matin? Que faisons-nous avec les promesses de Dieu? Sommes-nous capables de réciter par cœur 5 promesses de Dieu que nous nous sommes appropriées dans nos propres vies ce matin? Comment peut-on vivre? Comment peut-on vivre si on n'est pas capable de dire, moi, j'ai 5 promesses dans ma vie qui reflètent finalement ma relation avec Dieu. 5 promesses que je me suis appropriées parce que c'est des promesses qui sont données pour tous les chrétiens. Dieu nous promet qu'un jour, il mettra fin à toute cette misère. Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4. J'entendis une voix forte qui venait du trône. Il disait, maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Avez-vous pensé que celui qui dirige l'univers, avez-vous pensé qu'un jour, lorsqu'il va recréer une nouvelle terre et des nouveaux cieux, où il n'y aura plus de maladies, plus de morts, plus de péchés, avez-vous pensé, avec tous les ressuscités, avez-vous pensé que ce Dieu, il va quitter le trône dans l'univers et à travers la personne de Jésus-Christ, il va venir siéger au milieu de son peuple pour l'éternité? C'est extraordinaire. C'est une histoire aberrante. Il n'y a pas un homme qui peut inventer une histoire aussi merveilleuse que celle-là, frères et sœurs. C'est incroyable. Le Dieu qui tient l'univers dans ses mains, un jour, va se faire homme, il va revenir dans la personne de Jésus-Christ, il va siéger sur le trône. Et non seulement il va siéger sur le trône, Apocalypse nous dit qu'on va s'asseoir avec lui sur le trône. C'est incroyable. Dieu va partager son trône avec ceux qui lui appartiennent. Avez-vous réfléchi à ça? On a de la misère à dire partager un repas avec quelqu'un. On a de la misère à partager une tasse de café avec quelqu'un. Ça arrive. Dieu va partager son trône avec ses enfants. C'est extraordinaire. Hey, moi, ça me réjouit. Moi, ça me fortifie. Et ça me permet de garder mes yeux en haut, peu importe les épreuves que je vis. Parce que j'ai compris que les épreuves que je vis, c'est Dieu qui permet que je les vive et ça me fait grandir. Et plus les épreuves sont importantes, plus je fais des bons géants dans ma foi. Alors, je ne vous demande pas de prier que Dieu vous envoie des épreuves. Mais quand il vous en envoie, acceptez-les. Parce que les promesses sont là. C'est pour te faire grandir, mon enfant. C'est pour que tu ressembles à celui que j'ai envoyé il y a 2000 ans. Ouais. Qui était capable de dire à ceux qui lui persécutaient, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. De prier pour ceux qui parlent en mal de lui. De bénir ceux qui le maudissent. C'est ce à quoi je veux t'amener quand je te dis tu vas ressembler à Jésus-Christ. C'est ce que je veux faire de toi. Alors, on ne prie pas pour recevoir des épreuves, parce qu'on ne sait jamais lesquelles que Dieu nous réserve. Des fois, c'est inattendu. Mais Dieu, on les accepte et on te remercie parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Amen. Ouais. Ses promesses s'appuient sur et dans sa parole. Psaume 119, 89. Cette parole qui subsistera toujours et qui a sa place éternelle dans le ciel. Le ciel et la terre passeront, dit Jésus, mais ma parole, elle durera éternellement. Éternellement. C'est magnifique parce que là, on ne peut pas dire, mais quand je suis rendu de l'autre côté, tout à coup, Dieu va changer d'idée. Non, non, il ne changera jamais d'idée. Sa parole, ce qui est écrit dans les Écritures, ça va, c'est là, c'est inscrit pour l'éternité. Le théologien Everett Storms a passé plusieurs heures à étudier les promesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Voici ce qu'il a dit. J'ai relevé dans la Bible un grand total de 8810 promesses. Il a classé les promesses qu'il a trouvées dans la parole de Dieu en 8 sortes. Il y a 7487 promesses de Dieu qui sont faites à l'homme, ce qui représente 85% de toutes les promesses que nous retrouvons dans toute la Bible. Il y a 991 promesses faites par quelqu'un à une autre personne, un homme à un homme. Il y a 290 promesses que l'homme fait à Dieu. Il y a 29 promesses faites par les anges, la plupart se trouvant dans l'Évangile de Luc. Il y a 9 promesses faites par ce vieux menteur qu'est le diable, par exemple, la promesse qu'il a faite à Jésus de lui donner tous les royaumes du monde s'il voulait se prosterner devant lui et l'adorer. Il y a 2 promesses qui sont faites par un mauvais esprit. Il y a 2 promesses qui sont faites par Dieu au Fils. Le Dr. Storms a constaté qu'il y a un seul livre qui ne contient aucune promesse, et c'est celui de Tite. L'Épître aux Éphésiens contient seulement 6 promesses, tandis que le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie et le livre d'Ésaïe contiennent plus de 1000 promesses chacune. Chacun. Quelle est la partie de la parole de Dieu qui a le plus impressionné le Dr. Storms? Il écrit en ce qui me concerne, le chapitre le plus remarquable concernant les promesses de Dieu, c'est le psaume 37. Pratiquement chaque verset contient une merveilleuse promesse. Dans le voyage du pèlerin que j'invite les nouveaux chrétiens à lire, c'est le deuxième livre le plus édité dans le monde, Le voyage du pèlerin de John Bunyan. Vous trouverez ça à la librairie chrétienne. Chrétien, hein, le nom de la personne, c'est chrétien. Il y a évangéliste, il y a chrétien. Chrétien a utilisé la clé des promesses de Dieu pour s'échapper ainsi à tout jamais des griffes du géant désespoir et de la prison du doute. Chers amis, revendiquez-vous les promesses de Dieu comme une ancre pour votre âme, tandis que vous naviguez sur les mers où vous attendent des tempêtes qui viseront à ébranler, qui ne visent finalement qu'à ébranler votre foi et cherchent à vous faire renoncer à suivre le Seigneur Jésus. Ces promesses vont vous libérer de la prison du désespoir dans laquelle le diable cherche à vous enchaîner et à vous maintenir captif. Troisièmement, rapidement, la solide ancre, le troisième, c'est celui de la providence de Dieu. Verset 24. Cette tempête, frères et sœurs, on l'a dit, elle faisait partie du plan de Dieu pour travailler dans la vie de Paul. À ce moment-là, cette tempête était l'endroit le plus sûr où l'apôtre Paul pouvait se trouver dans le monde. C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de Dieu et parce qu'il était en train d'agir puissamment pour que sa volonté s'accomplisse dans la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que vous savez que Dieu est en train de faire exactement la même chose dans votre vie? Vivez-vous une tempête ce matin? Vivez-vous une petite tempête, une mini-tornade, une petite tempête ce matin? Dieu est souverain. Rappelez-vous de ça, Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il contrôle tout ce qui arrive. Ésaïe, chapitre 45, verset 7, « Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. » Oui, c'est moi le Seigneur qui réalise tout cela. Job dira, « Dieu peut faire souffrir, mais il guérit aussi. S'il fait une blessure, il la soigne lui-même. Plus d'une fois, il te sauvera de l'angoisse et à la fin, le mal ne pourra plus t'atteindre. » Et en fait, le but de Dieu à travers les épreuves, c'est qu'à un moment donné, on est blindé. On est blindé, on est fortifié dans la personne de Jésus-Christ. Et comme Paul, le Seigneur veut nous amener à dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Écoutez le témoignage de Jacques concernant la souveraineté du Seigneur. « Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel. Ils descendent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. » Et les dons parfaits, ça suit les épreuves aussi. Ce n'est pas juste la facilité. Si je ne savais pas que Dieu est sur son trône, je ne voudrais pas vivre une seconde de plus dans ce monde. Mais aussi longtemps que je sais que c'est lui qui ordonne les tempêtes, je sais que je peux les surmonter parce qu'il est avec moi. Le soir étant venu, regardez la suite, le soir étant venu dans Marc chapitre 6, versets 48 à 51. Pour ceux qui ont leur Bible, on va tourner rapidement. On est en présence d'une tempête. Marc 6, versets 48 à 51. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Bon, on n'a pas à prêcher là-dessus ce matin. Mais dans le texte, on nous dit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Dieu a vu, Jésus a vu qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça nous arrive aussi dans les tempêtes du quotidien, dans les tempêtes de nos vies, d'avoir beaucoup de difficultés à ramer pour s'en sortir. Hein? Pourquoi? Parce que le vent est contraire. Pourquoi? Parce que les éléments qui nous entourent sont contraires. On pense, je m'en sortirai jamais. Combien de fois on se dit ça? Hein? Oh, je m'en sortirai jamais, oh, c'est trop pour moi. Hey, c'est sous-estimer la puissance de Dieu. Hein? C'est sous-estimer la capacité de Dieu à bien nous connaître, à bien nous cerner. Hein? Ouais. Et qu'est-ce qui arrive ici? Le texte nous dit que Jésus marchait sur les eaux. Jésus a vu qu'ils avaient peur, il est venu à leur rencontre. C'est la même chose dans nos vies quotidiennes. Il vient à nos rencontres. Il les a tellement rassurés que le vent a cessé. Dieu est capable d'ordonner au vent de cesser. Dieu est capable d'arrêter les tempêtes. Il peut en faire démarrer, mais il est capable de les arrêter. Il nous connaît ici ce qu'on peut supporter, frères et sœurs. Le Seigneur sait exactement ce qu'il y a de mieux pour vous et pour moi, et c'est ce qu'il nous veut nous faire vivre. La meilleure chose que nous pouvons faire lorsque les tempêtes font rage autour de nous, c'est de nous réfugier en lui et de nous remettre en lui jusqu'à ce que la tempête passe. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 57:1. « Ô Dieu, accorde-moi ton appui. Ne tarde pas, car c'est près de toi que je cherche refuge. Je viens à l'abri sous ta protection jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. » La première question qu'on peut se poser en lisant ce verset, c'est que où allons-nous chercher notre appui? En qui allons-nous trouver notre refuge lorsque survient une difficulté dans nos vies? Le psalmiste ici, il nous donne la réponse. Il va se placer sous la protection de Dieu jusqu'à ce que l'épreuve soit passée. Souvent, il y a des gens qui ont le don de, on va trouver des gens qui ont le don de nous décourager plus que de nous encourager. Et finalement, quand on les quitte, on est deux fois plus découragé qu'on l'était avant de les rencontrer. Mais le Seigneur, son ministère, ce n'est pas là, c'est pas un ministère de découragement, il veut nous encourager. Bon. Et le Seigneur, ce magnifique verset, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui vit quelque chose avec le Seigneur. De son côté, Isaïe ajoute ceci, « Car tu es le refuge des faibles, oui, le refuge des malheureux. Quand ils étaient dans la détresse, tu as été un abri contre l'averse, une ombre qui protège l'ardeur du soleil. » L'empereur Charles V a essayé d'assassiner John Brenz, un ami de Martin Luther. Mis au courant du complot, Brenz a eu juste le temps de prendre une miche de pain, un peu de viande de canard et se cacher dans le grenier à foin du voisin. Il resta caché à cet endroit pendant 14 jours. Le pain vint rapidement à manquer, mais le Seigneur envoya une poule qui alla le trouver à chaque jour pour lui pondre un œuf pendant 14 jours. C'est de cette façon que Brenz put rester en vie. Le 15e jour, la poule ne revint pas et le réformateur se demandait ce qu'il allait faire. Il entendit alors des villageois à l'extérieur crier « Les soldats de l'empereur sont partis, vive la liberté. » Il sortit de sa cachette. Frères et sœurs, ne pas s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est d'oublier que Dieu est notre protecteur, notre bienfaiteur, que c'est en lui seul qu'on peut se fier. Amen. Ouais. John Craig fut arrêté pendant l'Inquisition. À la veille de son exécution, Craig s'échappa. Mais en fuyant, il n'avait pas pu emporter de la nourriture avec lui. Tout à coup, il aperçut un chien qui s'approchait de lui, tenant un sac à la main dans sa bouche. Craig essaya de chasser l'animal, mais le chien persistait à vouloir lui remettre le sac à main. Lorsqu'il ouvrit le sac à main, il y avait suffisamment d'argent pour qu'il puisse fuir le pays et obtenir sa liberté. Vous avez le droit d'y croire, vous n'avez pas le droit d'y croire. Mais ce sont des récits qui sont racontés par des gens qui avaient la foi. Robert Bruce d'Écosse fuyait pour sauver sa vie. Il entra dans une petite grotte pour s'y cacher. Et au même moment, une araignée apparut et commença immédiatement à tisser une toile dans l'ouverture de la grotte. Les poursuivants de Bruce, sachant qu'il était tout près, s'étaient éparpillés pour le capturer. Deux d'entre eux s'approchèrent de la grotte. Et un d'eux s'apprêtait à y entrer lorsque le deuxième l'arrêta en lui disant, « Écoute, hey, arrête, il n'aurait jamais pu entrer dans cette grotte sans avoir brisé la toile d'araignée. Ne perdons pas notre temps, cherchons ailleurs. » Et ça, je vous raconte, là, ce n'est pas des légendes, c'est un récit d'un chrétien que Dieu s'est occupé à le protéger. Et Robert Bruce fit cette prière, « Ô Dieu, la prière d'un enfant, hein? « Ô Dieu, je te remercie d'avoir utilisé les petites pattes d'une araignée pour me construire un abri. » C'est à travers les épreuves de la vie, frères et sœurs, que notre foi augmente vis-à-vis de Dieu. Si on ne vit pas d'épreuves dans nos vies, notre foi, elle stagne, au péril même de s'effacer. Job dit, « J'étais nu quand je suis venu au monde, c'est nu aussi que je quitterai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, je n'ai qu'à remercier le Seigneur. » Remarquez ceci, même après que l'apôtre Paul, versets 28 à 39, même après que l'apôtre Paul eut reçu la grande promesse du Seigneur que tous s'en sortiraient sains et saufs, certains marins, essayèrent tant bien que mal d'empêcher le navire de sombrer, tandis que d'autres cherchèrent à quitter le navire. Même si Dieu avait fait la promesse à Paul que personne ne mourrait, ils étaient découragés et craignaient de mourir. Il y avait juste une seule personne, et moi c'est ça que je trouve extraordinaire dans ce récit, il n'y avait qu'une seule personne qui profitait du voyage, malgré la tempête, et c'était l'apôtre Paul. À l'écouter parler, vous aviez l'impression qu'il était en train de faire une croisière, le bonhomme, quoi. Il est là, il est au milieu, puis il s'adresse à tout le monde, puis il calme tout le monde. Vous avez l'impression qu'il est en croisière, alors tout le monde panique. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu. Parce qu'il fait confiance en Dieu. Il savait que Dieu agirait en fonction de la promesse qu'il lui avait faite et il utilisait cette vérité comme une ancre pour sa vie, frères et sœurs. Quelles sont les ancres à laquelle vous vous accrochez pour avancer dans votre vie chrétienne, frères et sœurs? Chers amis, nous vivons dans une époque où les hommes abandonnent le navire à un rythme alarmant. Ils sont attaqués par les tempêtes de la vie. Ils cherchent à fuir le navire que représente l'Église. Puis-je vous rappeler que le meilleur endroit où vous pouvez vous trouver lorsque vous faites face aux tempêtes de la vie, c'est dans le navire, là où le Seigneur veut que vous soyez. Si vous quittez le navire, vous pourriez devoir affronter la fureur de la tempête par vos propres forces. Si vous demeurez là où le Seigneur vous a placé, vous pouvez être rassuré dans sa providence. Il vous conduira à bon port et à l'endroit exact où il a voulu que vous soyez spirituellement parlant. Quatrièmement, rapidement. La quatrième angle solide de Paul, c'était la puissance de Dieu. Paul s'appuyait sur la puissance de Dieu. Verset 44. Ce que le Seigneur a dit à Paul et ce que Paul a cru a fini par arriver. Dans sa bonté pour Paul, Dieu accorderait la vie de tous ceux qui naviguaient avec lui, verset 23. Et Dieu a tenu parole. Il a épargné la vie de chacun et il a démontré qu'il était fidèle à sa parole. Dieu est capable d'agir en toutes choses et peu importe la tempête que vous vivez, il vous permettra d'accoster en toute sécurité là où il veut vous conduire. Vous avez peut-être l'impression ce matin que votre navire est en train de couler. Vous pensez peut-être que les tempêtes de la vie sont en train de prendre le dessus sur vous, alors que les vagues auront disparu, et que lorsque la pluie aura diminué l'intensité, que les nuages seront dissipés, eh bien, vous verrez que Dieu est en contrôle de cette tempête, était en contrôle de cette tempête du début jusqu'à la fin. Et je peux vous promettre ceci, frères et sœurs, aucune tempête dans votre vie ne sera capable de vous emporter loin de la course que Dieu a déjà déterminée d'avance pour vos vies. Aucune tempête, aucun individu. Dieu prendra soin de vous pendant la tempête et il réussira à vous protéger, à vous en délivrer et vous conduire au bon port céleste. Corinne Ten Boom a dit ceci, « Lorsque Jésus prend votre main, il la tient serrée. Lorsque votre main est dans celle de Jésus, il vous conduit à travers les dédales de la vie. » Lorsque Jésus vous conduit à travers les dédales de la vie, il vous amène en toute sécurité à la maison. Amen. Amen. J'aimerais juste faire remarquer ce matin, en terminant, que notre Dieu est un Dieu grand et puissant. Rien ne lui est impossible. Il a le pouvoir de faire infiniment plus, dit l'apôtre Paul. Il a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même espérons ou même pensons au moyen de la puissance qui agit en nous. Frères et sœurs, le Seigneur ne vous a pas sauvés pour vous perdre. Il est présent avec vous lorsque vous êtes dans la tempête. Il vous a sauvés pour vous ramener dans la maison céleste. C'est ce qu'il a prévu et c'est ce qu'il le refera. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter un cantique.